Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé, bien-être du lundi au vendredi de 15h à 16h. Comme tous les jours, dès 15h, je ne suis pas seule dans ce studio, je suis très bien accompagnée par le docteur d'Europe 1, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui, dans notre grand dossier du jour, nous allons nous pencher sur la santé mentale de nos enfants. Comme le nôtre, leur bien-être psychique a été plus que touché depuis un an à cause de l'épidémie de Covid et des contraintes que nous subissons tous. Alors comment savoir si son enfant, petit ou plus grand, a un niveau de stress ou d'anxiété trop grand, même s'il ne l'exprime pas? Comment savoir si son ado a peut-être besoin de l'aide d'un professionnel? Pour y voir plus clair, nous recevrons en studio le docteur Louis Vera, il est pédopsychiatre à Paris. Ensuite, dans notre chronique Les Bobos du quotidien, le docteur Jimmy Mohamed va nous éclairer sur ce qu'il se passe vraiment dans notre cerveau quand on ne fait rien, quand on rêvasse, et vous allez voir que ça lui fait du bien en réalité, il ne se met pas d'ailleurs complètement en pause. Enfin, vers 15h50, nous retrouverons la chronique sexo de Catherine Blanc. Aujourd'hui, elle nous parlera des plans, des coups d'un soir, comme on dit, mais surtout du besoin qu'ont certains de tout raconter à leurs amis sur le sujet.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on va démarrer cette émission par cette question de Yousra. Écoutons-la.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. J'aurais une petite question à vous poser. Alors, dans quelques semaines, je vais donner naissance à mon premier enfant. J'ai beau lire tout sur le sujet, j'arrive pas à trouver une méthode pour me préparer à l'accouchement. Est-ce que vous auriez deux, trois petits conseils à me donner? Merci à vous et bonne journée.
Alors, Yousra, pour vous répondre précisément, nous avons interrogé pour vous Véronique Priem, elle est sage-femme libérale à Lille. On l'écoute.
Je vous conseillerais d'abord d'appeler rapidement là où le sage-femme libérale proche de chez vous et tout simplement lui demander ce qu'elle peut vous proposer comme type de préparation à l'accouchement, donc plutôt classique ou en sophrologie ou en yoga, à la piscine. En plus, vous pourrez voir ce qui vous convient le mieux, ou en individuel ou en groupe avec votre conjoint, une approche plus sportive ou plus dans la relaxation ou dans des connaissances plus théoriques. Vous pourrez discuter avec elle et voir ce qui est plus adapté à vos besoins. Mais en tout cas, il n'est jamais trop tard pour rencontrer une sage-femme libérale pour la préparation à l'accouchement, mais aussi pour préparer l'accueil de votre enfant. Être accompagné dans cette période, c'est précieux, c'est un moment intense pour vous et les jeunes parents, vous êtes souvent un peu perdus. Pouvoir avoir une sage-femme à proximité qui vous conseille ou qui vous oriente vers un autre professionnel, ça peut être précieux.
Voilà, c'était Véronique Priem au micro de Valentin Piovesan. Jimmy, à présent, on va prendre une deuxième question pour vous. C'est la question d'Antoine de Metz, on l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. J'ai une petite question pour vous. Alors, dans ma famille, on se nettoie quasiment tous les jours les oreilles avec des cotons-tiges. Et dernièrement, j'ai vu que c'était pas conseillé. Alors, pour quelles raisons? Et surtout, comment faire pour remplacer l'habituel coton-tige?
Alors Jimmy, pour se nettoyer les oreilles, on a des questions très pratiques parfois, et c'est très important bien sûr d'y répondre aussi, des choses qu'on fait quotidiennement. Là, il nous parle des cotons-tiges. Moi, j'adore les cotons-tiges, je dois dire la vérité. Je sais que c'est pas bien, on nous dit qu'il faut pas. Pourquoi il faut pas d'ailleurs? C'est un petit moment agréable de mettre le coton-tige dans l'oreille, je trouve. Bon, je confie des trucs hyper perso, mais allez-y.
Effectivement, mais libre à vous de nous donner ce témoignage. Alors, c'est pas qu'on contre-indique, c'est pas qu'on déconseille, mais il faut le faire le moins souvent possible pour plusieurs raisons. Un, ça sert à rien, on va pas avoir des oreilles plus propres si on se nettoie avec le coton-tige, même si parfois, quand on regarde ce qui sort des oreilles, c'est un peu inquiétant.
J'allais dire, ouais.
Deux, on a tendance à le faire mal et on va pousser trop loin le coton-tige. Et donc, ce qu'on veut sortir, finalement, on va le tasser vers le fond et ça va s'accumuler pour donner un bouchon d'oreille. Puis parfois, on peut être traumatique. Moi, je vois des otites externes chez des gens qui ont une espèce de manie de vouloir tout le temps se nettoyer les oreilles. Et donc, vous allez vous débarrasser du cérumen, mais on oublie que ce cérumen, il sert à quelque chose. Et à ce moment-là, vous créez de l'irritation.
Alors justement, le cérumen, parlons-en, puisque c'est ça qu'on cherche dont on cherche à se débarrasser. Il y a les gros et les petits producteurs. C'est quoi le cérumen? Ça a une fonction précise, vraiment?
C'est vrai que c'est crade, mais c'est extraordinaire.
J'allais dire, c'est ça, là, quoi ça sert? Ça sert à quelque chose?
Au contraire, ça sert à être propre. Ça a une triple fonction, une fonction de nettoyage. Ça permet justement de capter les peaux mortes qui vont être éliminées et au lieu de stagner, elles vont être éliminées avec ce cérumen. Donc ça va nettoyer vos oreilles plutôt que de les rendre sales. Ça a un rôle de lubrification. Si vous n'avez pas de cérumen, vous allez avoir les oreilles très sèches et donc une otite externe. Et puis ça a un rôle de protection mécanique. Si vous avez des petites bestioles qui doivent rentrer, eh bien elles seront bloquées justement grâce à ce cérumen au lieu d'aller au fin fond de votre tympan.
Donc finalement, les gros producteurs, ils ont un avantage, hein, c'est ça, ils sont plus sécurisés. Alors si les cotons-tiges sont à éviter ou en tout cas avec précision, c'est-à-dire ne pas enfoncer trop profond, etc., pour éventuellement éventuellement nettoyer uniquement le contour un peu extérieur. Comment on fait si on n'a pas le droit de les utiliser, si on ne veut plus les utiliser pour se nettoyer les oreilles, pour nettoyer le conduit auditif?
Bah, on ne les nettoie pas, on les laisse tranquilles. C'est pas, on n'est pas obligé de nettoyer ses oreilles en fait. Quand vous prenez votre douche, simplement, avec le pommeau de douche, eh bien, vous mettez un petit peu d'eau chaude dans l'oreille, ça va la nettoyer naturellement, mais pas de savon, juste un peu à l'extérieur tout simplement. Mais vous n'avez pas besoin de nettoyer les oreilles. Ce n'est pas un organe qui est sale et c'est un organe qui s'auto-nettoie tout seul. Donc laissez vos oreilles tranquilles, vous verrez, vous en porterez très bien.
D'accord. Et donc les sprays qu'on voit partout là, sur Internet ou même en pharmacie, les sprays auditifs pour nettoyer en profondeur les oreilles, vous ne vous conseillez pas particulièrement?
Ils peuvent aider si on a l'impression qu'il y a un début de formation de bouchon et on se dit on va le ramollir pour éviter, éventuellement l'évacuer. Moi, ce que je recommande, c'est de prendre le pommeau de douche dans la douche, tout simplement.
Chaude, hein,
de mettre de l'eau chaude. Et vous allez dissoudre naturellement le bouchon éventuellement. Et d'ailleurs, quand vous allez chez le médecin, si vous allez voir l'ORL, il a un petit aspirateur à cérumen, c'est génial. Mais les médecins généralistes n'en ont pas forcément. Eh bien, ils vont prendre une poire, ils vont mettre de l'eau chaude et ils vont vider tout simplement la poire dans l'oreille. Et on va nettoyer l'oreille, se débarrasser du bouchon. Inutile d'aller à la pharmacie. Vous faites ça dans votre douche et tout se passe très bien.
Mais s'il y a bouchon, là, c'est direction l'ORL, pas le choix. Hein.
Oui, parce que le bouchon accumulé va entraîner une baisse de l'audition.
On n'essaye pas soit de l'enlever, même si on le voit un petit peu dans l'oreille.
Déjà, on ne peut pas le voir, ouais. Ça va être traumatique. Vous allez faire n'importe quoi. On le laisse tranquille, mais effectivement, il faut l'enlever parce que ça peut être source d'otite, parce que de l'eau peut stagner derrière ce bouchon et donner une otite. Et puis, comme il y a un bouchon, eh bien, les sons vont être moins perçus. Vous allez moins entendre. Et donc là, il faut enlever tout le caca des oreilles.
Et moins bien entendre Europe 1, ce serait dommage. Merci beaucoup, Jimmy. Alors, si vous aussi, vous voulez nous laisser vos questions santé, bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout, n'hésitez pas.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé, bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, docteur Louis Vera, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes pédopsychiatre à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et en cabinet libéral à Paris. Et avec vous, aujourd'hui, on va s'intéresser à la santé mentale de nos enfants. Un an après le début de cette pandémie qui a bouleversé nos vies à tous. Chez les plus petits d'abord, on va parler des petits, des bébés ou des enfants d'âge maternel. On va dire, qu'est-ce que vous constatez en consultation? Est-ce que ces enfants, les plus jeunes en tout cas, sont peut-être plus fatigués que d'habitude?
Mais c'est vrai que la période est difficile, ça fait un peu plus d'un an que ça dure, et je constate une plus grande fatigue chez les enfants, mais pas que de la fatigue, beaucoup de stress accumulé, et finalement, on les sent plus sensibles à tout ce qui peut se passer dans leur environnement, parce que les enfants sont des éponges, de vraies éponges à émotions, et même s'ils ne vont pas comprendre tous les enjeux de ce qu'il se passe actuellement, ils sentent bien le poids du stress à la maison, à l'école, et finalement un petit peu partout où ils vont aller.
Alors vous dites qu'ils sont fatigués, et on pense que lorsqu'on parle d'un enfant fatigué, on pense forcément à un enfant qui dort moins, mais c'est des enfants qui vont dormir comme d'habitude, mais malgré tout, ils n'ont pas la même pêche qu'auparavant.
Alors en fait, oui, ça va être, c'est une fatigue psychique. En fait, le stress, ça fatigue le cerveau. Et donc, ces enfants-là, lorsqu'ils sont fatigués, ne vont pas forcément, comme nous, aller se coucher. D'ailleurs, on ne le fait pas toujours, hein, ouais. Aller se coucher quand on a besoin de repos. Ils vont plutôt être agités.
Voilà, moi, je vois plutôt ça autour de moi, des enfants très agités. Mais donc, ils n'ont pas l'air fatigués comme ça. Hein,
ouais, mais ça, c'est spécial, ouais. Mélanie. De votre côté, on l'a déjà dit, c'est toujours spécial.
Ouais, d'accord.
Certains vont être effectivement agités. Ils vont montrer quelques signes de stress. Ils vont rester collés à leurs parents. Ils ne vont pas vouloir aller se coucher. Certains, effectivement, vont dormir comme d'habitude, entre guillemets, parce que sous le stress, le sommeil est moins réparateur. Et donc, on va les trouver fatigués le matin. Ils ont du mal à sortir du lit ou alors ils vont être grognons.
Alors, si un enfant a du mal à s'endormir le soir, vous avez dit que ça pouvait être le cas pour certains en ce moment, qu'est-ce qu'on peut faire? Notamment, nous, on parle souvent dans cette émission, on a fait quelques émissions sur le sommeil ces derniers temps, on a parlé beaucoup de la mélatonine. Est-ce que chez les enfants, on peut l'utiliser en sécurité? Est-ce que d'ailleurs, c'est utile? Je vois qu'il y a, je le dis, puisqu'il est en studio avec nous, il y a votre petit garçon de 9 ans qui est à côté qui dit oui, apparemment, la mélatonine chez les familles Vera, c'est utilisé. Hein.
Alors, effectivement, il a eu un petit peu de stress il y a quelques semaines et donc, il a pris un petit peu de mélatonine. J'avais commandé des bonbons à la mélatonine. Ça marche super bien. Et effectivement, on peut recommander la mélatonine à partir de l'âge de 6 ans.
D'accord.
Alors, c'est vrai que j'aurais tendance à dire mélatonine, OK, ça peut aider, mais il y a d'autres méthodes. Un bain chaud, ça permet de se détendre. Une douche chaude tous les soirs, ça permet de se détendre. Et puis, prendre le temps, tout simplement, d'aller discuter avec son enfant parce qu'il voit le stress chez tout le monde. Les parents qui ne vont pas bosser, les parents qui sont en télétravail qui pètent les plombs parce que ça prend deux fois plus de temps de faire les choses quand on est en télétravail. Les parents qui se demandent s'ils vont pouvoir rouvrir leur restaurant. Donc ils sentent ce poids-là et en fait, prendre 10 minutes avant d'aller se coucher pour parler avec son enfant, lui demander comment tu vas, est-ce que tu n'es pas trop stressé, comment tu te sens, comment ça s'est passé à l'école aujourd'hui.
Un petit débrief régulier, comme ça.
Un petit débrief. Ouais. En fait, le plus important dans cette période difficile, c'est d'échanger. Et en fait, c'est à vous d'amorcer la discussion parce que le petit ne va pas amorcer la discussion. Donc, c'est à vous de lui demander comment il se sent et de lancer le débrief.
Alors, docteur Vera, vous êtes pédopsychiatre et donc, en ce moment, vous dites voir des enfants un peu plus stressés. Stressés au point que vous leur prescrivez parfois des antidépresseurs, des traitements médicamenteux pour lutter contre ce stress ou cette dépression ambiante.
Alors, c'est vrai que j'ai eu l'impression, la semaine dernière, en rentrant chez moi, et je l'ai dit à ma femme, je lui ai dit, je comprends pas, j'arrête pas de prescrire des antidépresseurs.
À des gamins, hein, on est d'accord. Hein.
À des enfants et des adolescents. Mmh. Et c'est vrai que antidépresseurs, c'est l'un des meilleurs traitements contre l'anxiété. Alors, on va faire ça en dernier recours, mais on voit bien que la période a un impact fort sur l'humeur de nos enfants et adolescents. Et je prescris plus d'antidépresseurs que je n'en prescrivais auparavant. C'est assez inquiétant.
Mais ça peut, évidemment, vous l'avez dit, en dernier recours, et ça peut les aider vraiment, on est d'accord. Hein, si vous le faites, c'est que pour ces enfants-là, c'est nécessaire. Et ce n'est pas pour toute la vie, on est d'accord, c'est sur une durée limitée.
On le fait effectivement quand c'est nécessaire, et ça n'est pas du tout sur le même type de période que pour les adultes, pour qui on va souvent partir sur quelques années. Pour les enfants et adolescents, ça va être des périodes de 6 mois la plupart du temps.
Et comment on se rend compte facilement, quels sont les signes qui peuvent nous orienter vers un enfant qui va un peu moins bien, qui aura un peu moins le moral par rapport à d'habitude?
Alors, c'est pas évident, pas aussi évident que chez l'adulte, qui lui va montrer qu'il est triste, qui va pleurer éventuellement. Les enfants, lorsqu'ils sont stressés ou angoissés, déprimés, finalement, ce qui va nous mettre la puce à l'oreille le plus rapidement, c'est un changement de comportement. En fait.
Vous disiez, certains se collent à leurs parents plus que d'habitude. Nous, on aime bien les câlins. Un enfant qui est très câlin, c'est bien, mais ça peut être un signe d'inquiétude.
Les tout petits vont devenir collants.
Ouais.
Alors, c'est le vrai tube de colle. Ils ne veulent pas se détacher de leurs parents. Et ça peut être un signe d'appel. Mais il n'y a pas que ça. Un changement de comportement, ça peut être aussi de l'agressivité chez un enfant qui habituellement est calme, des crises de nerfs chez un enfant qui habituellement ne fait pas de caprices.
Est-ce que c'est un enfant qui peut avoir des TOC tout d'un coup? Parce qu'on sait que chez les adultes, il y a une augmentation des TOC, notamment de propreté. Est-ce que chez les enfants, ça arrive aussi?
Bon, alors moi, je n'ai pas vu d'enfant qui se lavait les mains plus régulièrement ou se les désinfectait plus régulièrement au gel hydroalcoolique que d'habitude. Mais en fait, les TOC, ça appartient à toute la symptomatologie anxieuse. Donc effectivement, les jeunes qui souffrent de TOC peuvent se réfugier vers les rituels qui sont un bon moyen d'évacuer le stress. En même temps, malheureusement, que ça le maintient.
Docteur Vera, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez bien avec nous.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors notre invité, toujours en studio avec nous, c'est vous, docteur Louis Vera. Vous êtes pédopsychiatre à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et en cabinet libéral à Paris. Alors on sait que vous avez l'habitude de suivre, vous, des enfants à haut potentiel, hyperactifs aussi. Hein. D'ailleurs, vous nous étiez venu nous en parler dans cette émission il y a quelques mois. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Tous précoces, tous hyperactifs, vraiment paru chez Larousse. Justement, ces enfants-là, précoces ou hyperactifs, comment ils vivent ce moment, ce contexte actuel, eux? Est-ce que c'est plus fort que les autres, plus douloureux que les autres?
C'est chaud. En ce moment, c'est chaud. Effectivement, moi j'ai l'habitude, par exemple, pour parler vraiment de manière concrète, de voir mes patients qui ont une petite période à vide en décembre, 15 jours avant les vacances scolaires, tout le monde est fatigué, c'est vrai, et on les voit descendre un petit peu au niveau du travail scolaire, au niveau de l'humeur. Et ben là, c'était à partir du 10 novembre.
Oui.
Donc ça montre bien à quel point ils sont plus fatigués, plus stressés et ça a un impact non seulement sur leur humeur mais aussi sur le travail scolaire. Et on voit pas mal de jeunes d'ailleurs qui, n'ayant pas de troubles de l'attention, ont du mal à se concentrer en cours. Hein, pas uniquement pour les cours en visio mais aussi en présentiel où on a le masque, il y a un stress, on nous dit qu'il faut ouvrir les fenêtres mais ça caille dehors, alors on n'ouvre pas forcément les fenêtres, on regarde son voisin de travers parce qu'il a le masque sous le nez.
À la cantine c'est très dangereux, on nous dit attention, donc on doit manger en 15 minutes vite fait.
On doit baisser le masque, on bouffe, on se grouille,
on remet le masque et après surtout on ne parle pas à ses potes. Et c'est vrai que ceux qui vraiment le ressentent avec un poids important, c'est les ados. Les ados qui ont besoin du lien social. Alors c'est vrai que pendant le premier confinement en mars 2020, les adultes se sont tous dit « Bon, allez, hop, on va leur prêter le téléphone ou la tablette, ils vont faire des visios. »
Bon, maintenant on essaie d'arrêter là le problème.
Et why not ? Mais en fait, nous, ça peut nous aider effectivement à maintenir le lien social, mais c'est pas pareil pour les ados qui ont besoin de contact.
Alors les mesures justement, elles vont peut-être évoluer, mais là ce qu'on propose, c'est d'être un maximum dehors que dedans. Et justement, est-ce que ça peut faire du bien aux enfants de sortir, de prendre l'air, de se balader, de jouer dans un parc tout simplement ?
Ah mais c'est essentiel. Il y avait un petit bout de parano pendant mars 2020. En même temps qu'il y avait un emballement, on se disait on va tous s'en sortir ensemble, mais on sortait pas trop, on savait pas ce qu'il fallait faire. Mais c'est clair que toutes les données actuelles nous disent que les contaminations, c'est en intérieur. Alors, il faut sortir. Surtout là, on a des rayons de soleil, enfin. Et le soleil, c'est bon pour le moral. Mais pas uniquement le soleil.
Donc, ils peuvent voir leurs potes au parc, quoi, c'est ça ?
On peut voir les potes au parc. Il faut absolument aller voir les potes au parc. Qu'on soit un enfant de primaire ou un ado, il faut aller voir les potes au parc. Bien sûr, on garde le masque. On peut se voir au parc, on peut jouer ensemble, on peut discuter et il faut absolument le faire.
Vous dites même qu'il faut continuer à fêter les anniversaires des enfants. Il y en a beaucoup qui n'ont pas eu droit cette année, malheureusement. Maintenant, ils commencent à faire un peu meilleur. On va pouvoir les faire à l'extérieur peut-être, mais faire les anniversaires, c'est important.
Alors, attention sur les anniversaires parce qu'il y a eu quelques annulations d'anniversaires chez mon fils qui m'accompagne aujourd'hui. Il y a eu une fête d'anniversaire dans son école. Paf, 9 cas de gamins positifs. Alors, les anniversaires...
En visio, alors
En Zoom, ouais, mais non, surtout en extérieur. Ouais. Parce qu'on sait qu'en extérieur, le risque est
avec
moindre.
Avec un nombre limité, pas plus de 5 ou 4
ou 5
enfants.
Quand on dit anniversaire, parfois ça paraît anodin, mais ces enfants, ils ont besoin de ce genre de rituel. Squeezer leur anniversaire, est-ce que ça peut leur faire du mal ?
Moi, les deux, ils n'ont pas eu cette année. Hein.
C'est triste de squeezer un anniversaire. C'est comme Noël, hein ? Noël, à partir du 1er janvier, les gamins, ils remontent le chrono et ils disent « Ok, 365 jours !» Et donc, ils commencent à nous demander « C'est quand Noël ?» Mais l'anniversaire, ça fait partie de ces dates où « Allez-y, envoyez les cadeaux !» Et donc, c'est très important, l'anniversaire, et de pouvoir le fêter, c'est essentiel. C'est vrai que j'ai vu beaucoup de jeunes ces derniers temps, dont l'anniversaire est passé à l'as.
Ça les a marqués quand même, hein, ces jeunes.
Ouais. Ouais,
cette année, on n'a pas fêté mon anniversaire.
On n'a pas les potes. Alors, les parents disent « Ouais, on fait un petit truc amélioré. Bon, on commande des pizzas, on met une bougie sur la
potes,
pizza, mais c'est difficile. » Et puis, il n'y a pas les potes.
Donc, deux, trois copains au parc, à l'extérieur, tous masqués. Bon, pourquoi pas, mais il faut marquer le coup, quoi. C'est important pour eux.
Il faut marquer le coup, et surtout, il faut voir les copains.
Comment est-ce qu'on fait pour ne pas transmettre son stress à son enfant ? Vous avez dit que c'était des éponges, mais on fait quoi ? On élude le sujet, on parle de pas de Covid, on parle pas de problème d'argent, on parle pas de problème tout court ?
On ne peut pas. C'est impossible d'empêcher de transmettre son stress aux enfants parce que sont des éponges, ils voient tout, ils perçoivent tout. Et j'ai envie de dire, ils entendent tout.
Ça, c'est vrai. Des fois, on se demande, on parle tout bas, on va dans une autre pièce, ils ont tout entendu.
Mais c'est justement quand vous tirez dans une autre pièce pour être discret qu'ils vont tendre l'oreille.
Exactement.
Hein. Mais non, on ne peut pas éviter, en fait. Ils vont nous voir stressés pendant cette période et il faut en parler avec eux, c'est ce que je disais.
S'il y a des problèmes d'argent dans la famille, on peut en parler devant les enfants.
Mais on peut en parler, on peut... Alors, il ne faut pas s'amuser à donner des chiffres spécifiques et dire, bon, alors tu vas voir les huissiers débarquer la semaine prochaine, il ne faut pas t'inquiéter. Mais... il faut le dire. Il faut dire, bon, tu sais, les temps sont durs. Donc, peut-être qu'on va serrer un petit peu la ceinture, mais on va s'en sortir. Voilà. Ça ne va pas durer. Et en fait, c'est essentiel d'en parler. Et les enfants ne viendront pas en parler avec vous avant qu'ils aient le stress au plafond. Ouais. Donc, en fait, il faut aller vers eux, amorcer la discussion en partant du principe qu'eux ne viendront pas, que c'est à nous de lancer la discussion et que ça va les aider à se décharger de tout le stress qu'ils ont perçu.
Très bien. Docteur Vera, ne bougez pas, on va continuer cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Vous êtes sur Europe 1 dans son rendez-vous et nous accompagne toujours en studio. C'est vous, docteur Vera. Je rappelle que vous êtes pédopsychiatre à Paris. Et justement, c'est notre thème du jour, la santé mentale des enfants et des ados. Alors, comment reconnaître, on a parlé des enfants un petit peu plus petits tout à l'heure, comment reconnaître un ado déprimé ? Parce que, bon, un adulte, on imagine à peu près, mais un ado, c'est toujours un peu triste, un peu pas triste, mais je veux dire, quand ils sont avec nous, ils ne sont pas tout à fait pareils que quand ils sont avec leurs copains. Un ado, ça peut être un peu nonchalant, un peu toujours fatigué. Comment on le sait qu'il est déprimé ?
Alors ça, c'est la question piège.
C'est ça, on
ne
sait pas.
Parce que l'ado, par définition,
c'est relou.
Je vous laisse le dire vous, hein, voilà, comme ça, ça va.
Et puis, il y a des variations de l'humeur. Mais les variations de l'humeur, c'est normal.
C'est
l'adolescence. Sauf que les ados en ont plus que les adultes. Et ça, c'est parfaitement normal aussi. Ce qui doit nous alerter, finalement, c'est surtout chez les ados, le changement de comportement. Alors,
puisqu'un ado, ça change de comportement, ouais. C'est quoi ?
Bah, parfois, je dis aux parents, vous allez voir, il va devenir chiant. Et les parents me disent, mais il est déjà chiant, il a toujours été chiant. Bon, ok, je dis, alors en fait, il va être encore plus chiant. Et c'est ça, en fait, c'est le fait d'avoir des échanges qui sont plus compliqués. Alors, c'est vrai que là, avec la période que nous vivons, c'est pas forcément évident non plus d'être enfermés tous ensemble à la maison, mais il y a un réel changement de comportement qui doit alerter avec des ados qui... Pour certains, peuvent rester enfermés dans leur chambre, dans le noir. Alors là, ça...
Bon, ça va pas bon, ça sent pas bon du tout.
Voilà,
hein,
ça doit ficher les jetons, ça. Ou alors, l'ado qui va faire des crises, qu'il ne fait pas habituellement. Mais c'est pas forcément des larmes, en fait. On les voit
sur
pas forcément
sur la nourriture,
tristes.
Peut-être qu'il peut y avoir un impact sur les repas au quotidien avec l'ado. Est-ce que...
Bah alors, ça, c'est un signe d'anxiété. Et en fait, grosso modo, un ado, mais aussi un enfant ou un adulte anxieux, va se jeter sur tout ce qui est gras et sucré. Et finalement, un signe de dépression facilement repérable, ça peut être la prise de poids. Bon, vous allez me dire, pendant le confinement,
on
peut manger plus des cochonneries, mais
par là, ouais.
L'ado qui va prendre du poids rapidement, ça doit inquiéter, de même que l'ado qui perd du poids rapidement. Donc, il peut y avoir des changements de comportement alimentaire, des changements de comportement avec un ado de plus en plus difficile, avec qui on a l'impression de perdre le lien, avec qui on n'arrive plus à parler, des troubles du sommeil, comme chez l'enfant. Mais aussi, ce qui peut nous alerter, c'est la baisse des résultats scolaires.
Et une fois qu'on a identifié ça, qu'est-ce qu'on peut faire en fait ? Parce que nous, parents, on va être crispés, parce que la relation va être difficile. On aura tendance à être un peu dépassés, on ne peut pas faire grand-chose, on ne peut pas sortir vraiment, on n'a rien à leur proposer en fait. Donc qu'est-ce qu'on peut en faire ensuite ?
C'est vrai que c'est difficile. Aller dire à son ado, bon, allez, va faire des soirées avec tes potes, avec le couvre-feu et tout ce qui se passe. Et puis en général, on a passé la journée tous ensemble, parce que les ados, il faut le rappeler, ils sont en demi-groupe. En ce moment, donc finalement, un jour sur deux ou une semaine sur deux, ils sont à la maison avec les parents en télétravail.
On se supporte comme on peut.
Déjà, il y a un risque d'avoir du sang sur les murs. Et alors là, pour aider son ado, bah, finalement, il faut essayer de discuter. Et si on n'arrive pas à échanger, une bonne façon de faire, c'est d'introduire un tiers. Alors ce tiers, cette troisième personne, ça peut être un autre membre de la famille.
Ça peut être une tante, un frère, une sœur avec qui on s'entend bien.
Ouais, en général, la fratrie, ils ont aussi passé toute la journée ensemble.
Non, et puis, c'est pas une bonne idée, d'accord.
Et puis, bon, ils sont les nerfs à vif. Ou ça peut être éventuellement, effectivement, si on sent que la situation nous échappe, ça peut être un psychologue ou le médecin traitant. S'il y a un bon rapport entre l'ado et son médecin traitant, et certains échangent beaucoup plus facilement avec leur médecin traitant qu'avec un psychologue qu'ils ne connaissent pas. Mmh. Bon, avant ça, effectivement, on essaye de parler avec son ado.
Le meilleur psy en ce moment, finalement, vous dites, c'est les parents. Je crois que c'est vous qui dites ça, bon, parce que peut-être vous avez une consultation surchargée aussi, mais je vous connais un petit peu. Mais clairement, on a un rôle à jouer. Nous, on peut aider nos enfants déjà dans un premier temps.
Ben, on a tous un rôle à jouer. Mmh. Et c'est vrai que depuis toujours, quand on m'appelait pour un motif de consultation en disant « on sépare, notre fils a besoin de causer », je répondais toujours aux parents bah, « vous êtes le premier interlocuteur ». Pour parler avec votre fils, lui dire ce qui va se passer, le rassurer. Et puis, si vous voulez qu'en fait il aille dire tout ce qu'il ne peut pas dire à un psychologue, vous pouvez aussi lui dire, si tu as des choses à me dire, vas-y, c'est permis. Et parfois, les parents, on doit pouvoir mettre nos préoccupations de côté et aller demander à nos enfants, pas est-ce que tu as fait tes devoirs, ou comment s'est passée ta journée d'école, ou qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui, mais comment tu te sens ?
C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément.
Est-ce que tes copains vont bien ? Est-ce que tu as pu les voir aujourd'hui ? Plutôt que de lui rappeler les règles sanitaires et le travail, parce qu'ils en entendent
pas ces choses-là,
bien
ouais.
parler du travail en ce moment.
On sait que les sportifs, lorsqu'ils arrêtent le sport, eh ben, ils sont un peu déprimés. Est-ce qu'à l'inverse, quand on est déprimé, et chez les enfants, quand on va un peu moins bien, faire du sport, ça permettrait d'améliorer leur humeur ?
Le sport, c'est quelque chose que j'ai toujours recommandé comme un excellent anxiolytique.
C'est un traitement pour vous.
Avant les médicaments, le sport, c'est génial sur l'humeur et sur l'anxiété. Et il y a beaucoup d'études qui montrent que trois séances...
C'est scientifique tout ça, hein, c'est ça, hein, c'est vraiment scientifique. Hein.
Non, je sors de mon chapeau au fur et à mesure. Je pensais que vous le saviez, il n'y a rien de scientifique là. Mais les études scientifiques, elles, disent qu'effectivement, trois séances de cardio, donc vélo, course à pied, natation par exemple, par semaine, allez, 40 minutes... fois trois séances, c'est un excellent anxiolytique. Et j'ai eu effectivement des cas de grands sportifs qui, lorsqu'ils arrêtaient le sport, se découvraient anxieux. Ça montre à quel point c'est efficace.
Et c'est scientifique. Donc, docteur Vera, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions, de nous avoir donné vos meilleurs conseils pour gérer au mieux le stress, l'anxiété, voire même la déprime chez les jeunes. Merci encore, docteur.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé, Bien-être sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Et à présent, savez-vous ce qu'il se passe dans votre cerveau quand votre esprit, votre conscience s'échappe? Le cerveau est-il vraiment capable de se mettre en pause? Et qu'est-ce que cela peut bien nous apporter? Nous vous avons posé toutes ces questions. Écoutez le micro-trottoir de Valentin Piovesan.
Je pense que si le cerveau fait ça, c'est qu'il en a grandement besoin et c'est comme un petit truc de survie même.
Ça m'arrive de faire des espèces d'arrêts sur image. En plus, les gens te regardent en te disant « mais qu'est-ce qu'elle a ?»
Je pense que c'est bien de se relâcher, de se laisser un petit peu aller une fois dans la journée. Ouais, ça fait du bien.
Ah, mais je milite pour ce genre d'incident. Je pense que c'est exceptionnellement important.
Souvent, je me suis dit « ça peut être paranormal, on vit une deuxième vie ».
Je pense que si quelqu'un rentrait dans mon cerveau, il deviendrait vite complètement fou en se disant « mais à quoi elle pense dans la vie de tous les jours, cette fille, c'est pas possible ».
Je sais pas, je pense à plein de choses, à ce que je vais faire dans le futur, à ce que j'aurais pu faire.
On peut au moins s'évader un peu de la vie réelle, on peut avoir un petit monde imaginaire, s'imaginer des trucs positifs ou si négatifs, ça dépend des personnes.
C'est le vide complet. Franchement, je pense à plus rien, je suis figée, voilà.
Et quand je reviens à moi, je suis là, j'ai perdu 5 minutes pendant un contrôle et c'est vrai que c'est chiant à vivre dans la vie de tous les jours.
C'est chiant à vivre, mais ça peut nous faire du bien. On va voir ça avec le docteur Jimmy Mohamed. Alors Jimmy, qu'est-ce qui se passe dans notre tête, dans notre cerveau quand on ne fait rien? Par exemple, quand on dort, typiquement, on n'a aucune action, on est endormi dans notre lit. Le cerveau, il est loin de dormir, lui, je crois. Hein.
Exactement. Même quand vous ne faites rien, bien vous faites quelque chose. La preuve, pendant le sommeil, il se passe plein de choses. La température varie, le cœur bat moins vite, la tension baisse, vous synthétisez des hormones, pour autant vous êtes en train de dormir. Eh bien, on le sait qu'il va y avoir des mécanismes extraordinaires. Typiquement, lorsque vous avez passé une mauvaise journée, vous êtes engueulé avec votre collègue, avec votre patron, le soir vous ruminez, et souvent vers 22-23 heures, on a des pensées noires, on se dit mais vraiment, mais quel con, j'en peux plus, c'est horrible, et puis on dort et on se réveille le lendemain matin, on a presque oublié. On revient au travail comme si de rien n'était, puisque finalement, vous allez digérer les émotions, les métaboliser durant la nuit, pendant une période très particulière, le sommeil paradoxal.
Oui.
Donc même lorsque vous ne faites rien, eh bien votre cerveau fait pour vous.
Alors dans la journée aussi, ça peut nous arriver de laisser s'échapper l'esprit, comme ça, de revenir tout d'un coup. Il y avait une jeune fille qui le disait dans le micro-trottoir, elle dit tout d'un coup, pendant un contrôle, je me rends compte que pendant 5 minutes, j'étais plus là. Et quand on revient, on se dit, oh là là, j'avais mis mon cerveau en pause.
Exactement.
C'est vrai, on le met en pause?
Alors pas vraiment. Nous, on a l'impression d'être en pause, alors qu'il se passe encore des choses extraordinaires. Le cerveau va en quelque sorte se mettre en mode par défaut. Un mode par défaut dans lequel il va travailler, mais de façon différente. Et on s'est rendu compte, lorsqu'on a mis des personnes dans des IRM cérébrales, qu'ils vont stimuler la créativité et les associations d'idées. C'est-à-dire que même lorsque vous ne faites rien, encore une fois, eh bien votre cerveau fait pour vous et que ces moments de rêvasserie, de rêverie, eh bien sont nécessaires pour notre santé.
Et le conseil que vous donnez aujourd'hui, je crois, c'est que donc finalement, même surtout pour les plus terre-à-terre d'entre nous, hein, ceux qui sont vraiment self-control à fond, ne sont jamais dans ces moments de divagement, bah c'est de se forcer à le faire, au moins 15 minutes par jour de rêverie, c'est important. Et ça procure quoi comme bienfait?
Alors, tout d'abord, vous allez éviter d'augmenter votre charge mentale, puisque dès lors que vous avez 10 à 15 minutes de libre, la première chose que vous allez faire, c'est d'être sur votre téléphone.
Eh oui, c'est vrai.
Vous allez voir plein d'informations anxiogènes, et donc sans vous en rendre compte, ces pensées vont devenir obsédantes. Donc la première chose, c'est que vous allez vous libérer du superflu. Et puis mine de rien, lorsque vous êtes assis durant 10 à 15 minutes, je vous ai dit que vous allez stimuler sans le savoir la créativité. L'histoire raconte que Paul McCartney, dans les Beatles, a créé la chanson Yesterday simplement en rêvant et en restant sans rien faire. Donc mine de rien, même lorsque vous ne faites rien, encore une fois, eh bien votre cerveau fait pour vous.
On peut créer des tubes, ça donne envie quand même. Comment on fait si on n'est pas un pro justement du laisser-aller, de la rêverie, tout ça? Comment on fait? On se pose sur une chaise, on ferme les yeux et on essaye de penser à rien.
C'est dur, vrai que c'est dur,
ouais.
Mais ce que je vous propose, c'est déjà de manger ce qu'on appelle en pleine conscience. Vous asseyez tranquillement le midi,
attention.
Assis pendant 10 à 15 minutes, vous n'êtes pas sur votre téléphone, vous découpez tranquillement et vous mâchez chaque aliment en prenant conscience que vous êtes en train de manger. Et bien rien qu'en faisant ça, c'est presque un début de méditation. Et vous allez abaisser sans le savoir votre niveau de stress et votre journée sera bien meilleure.
Merci beaucoup Jimmy pour tous ces conseils scientifiques et bien-être finalement.
Et validé, surtout
scientifiquement. Et validé, très bien, c'est prouvé. J'y tiens, merci Jimmy.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous depuis 15h et nous accueillons tout de suite en studio pour cette dernière séquence de l'émission Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, il va falloir répondre aujourd'hui à la question que nous a envoyée par mail Valérie. Je vous la lis. L'autre jour, j'ai couché avec un garçon qui me plaisait uniquement sur le plan physique. Mes amis ne comprennent pas comment j'ai pu faire ça. Je leur ai expliqué que pour un plan d'un soir, je n'avais pas besoin d'un homme avec le quotient intellectuel d'Einstein. Qu'en pensez-vous, Catherine? Une science infuse dans ces moments-là, c'est pas forcément nécessaire.
Ce n'est pas nécessairement nécessaire, bien sûr. Maintenant, à chacun de savoir. Vous savez, quand on fait l'amour avec quelqu'un, on fait l'amour bien sûr avec un corps, mais on fait aussi l'amour avec tout ce que l'on suppose de compétences à ce corps. Donc peut-être n'avait-elle pas besoin d'avoir quelqu'un qui avait un quotient intellectuel parce que ça lui permettait aussi de lâcher sa propre interrogation, sa propre réflexion, sa propre intelligence qui vient certainement nuire à sa sexualité. Parce que souvent, nous ne cherchons pas chez l'autre l'intelligence parce que nous voulons faire céder la nôtre qui justement emmêle notre sexualité, emmêle notre désir, juge éventuellement. Et peut-être que c'était cela qu'elle allait chercher auprès d'un homme qui n'était que corps, que muscles, que charnel, et pour justement n'être et s'autoriser à n'être qu'elle-même, corps et pulsion.
Mais la question est un peu étrange, parce que si elle a eu ce rapport sexuel et qu'il ne lui plaisait que physiquement, pourquoi s'attarder sur son mental? Ça veut dire quand même qu'elle l'a mentionné, qu'elle a quand même constaté qu'il y avait un QI peut-être différent, en tout cas qui n'était pas futur.
Il était limité, mais ça s'est bien passé.
C'est bien passé, mais elle va quand même le mentionner. Elle pourrait juste dire « j'ai passé un agréable moment avec un jeune homme » sans dire qu'il était un peu bébête, quoi.
Oui, oui, non, mais c'est pour ça que je dis, je pense qu'il y a quelque chose d'elle-même. Elle avait le sentiment que là, elle avait affaire à quelqu'un qui n'était pas de son niveau intellectuel, peut-être, ou qui n'était pas ce qu'elle pourrait imaginer agréable en termes d'échange. Mais pour peu, son corps était tout à fait désirable. Moi, ce que je trouve le plus curieux, c'est d'avoir besoin de l'avis des autres. C'est-à-dire, si je fais l'amour avec quelqu'un, c'est l'adéquation d'un moment, c'est l'adéquation d'une rencontre. Qu'est-ce que mes copines ou mes copains ont à voir là-dedans? C'est étonnant de pourquoi je me suis abaissée. Et d'ailleurs, s'ils me disent cela, c'est que je leur ai précisé, comme vous le dites très justement, Jimmy, je leur ai précisé que je m'étais abaissée à aller...
Elle ne dit pas faire l'amour, elle dit j'ai couché avec un garçon. À aucun moment elle utilise le mot faire l'amour, ça fait peut-être la différence, non aussi.
Voilà, c'était le but, c'était c'était la rencontre de deux corps et essentiellement de deux corps. Et manifestement, si elle a eu besoin de le commenter pour avoir le jugement des copines, c'est que même elle se juge sur ce sujet-là. Sinon, on n'a pas besoin d'avoir
l'avis des autres, bien sûr.
Non, bien évidemment.
Mais là, elle parle de coup d'un soir, mais imaginons que ça se reproduit et que finalement une relation va se créer entre les deux. Elle va avoir l'air maline auprès de ses amis en disant bah, finalement, je suis avec quelqu'un que j'ai estimé bête au début. Donc c'est une double faute, non, d'annoncer d'avance que...
Oui, c'est un peu prétentieux. C'est un peu prétentieux parce qu'on ne sait jamais l'idée que l'on se fait de l'autre et la réalité de l'autre. Comme il y a des gens qu'on peut percevoir comme étant extrêmement intelligents, et puis dans les faits, ils sont imbuvables, insupportables à vivre, les échanges ne sont pas qualitatifs. L'intelligence n'est pas la preuve d'une compétence à la relation.
Ou alors, est-ce qu'elle ne sabote pas le truc aussi elle-même en parlant avec ses amis, en disant un peu n'importe quoi, justement, il est un peu bébête, s'il faut, elle ne sait même pas, elle n'a pas parlé avec lui.
Ça permet...
C'est pas une façon d'éviter aussi que ça devienne une relation.
Oui, c'est une façon aussi d'éviter que ça soit autre chose. Ça justifie pourquoi ça n'était qu'un coup d'un soir.
Si les autres le disent aussi, c'est que ça ne doit pas être intéressant. Quoi, c'est
voilà, ça légitime la possibilité de coucher pour coucher, et ce qui est une façon de planquer sa propre difficulté et dans l'engagement de la relation, le cas échéant. Et ainsi, laisser penser que c'est au nom du manque d'intelligence que ça s'est réduit simplement à l'histoire d'un soir.
Et puis en plus, on est toujours le bête de quelqu'un, donc quelqu'un est plus bête, peut-être qu'elle tombera sur quelqu'un qui considérera qu'elle est plus bête, donc c'est pas non plus... C'est un peu vraiment particulier, je trouve, comme réflexion. On a le droit d'avoir une relation d'un soir sans se justifier, et encore moins sans dénigrer des gens, c'est-à-dire peut-être qu'on se respecte pas non plus nous-mêmes.
Oui, mais je crois qu'effectivement, c'est là toute la difficulté, faire l'amour avec quelqu'un, même quand c'est pas faire l'amour, quand c'est coucher avec quelqu'un, ce n'est pas l'utilisation de l'autre, c'est de toute façon une rencontre avec des adéquations et des inadéquations. Le jugement de l'autre en dit long sur le jugement que l'on porte sur soi-même, sur les doutes qui sont les nôtres, le manque de confiance, pour avoir à ce point-là besoin de dénigrer l'autre. C'est assez curieux. Mais je crois que c'est assez fréquent, notamment chez les jeunes, d'avoir besoin de justifier le non-investissement de quelque chose qui est pourtant extrêmement intime, tout en partageant le soi-disant la vérité des liens avec les amis avec lesquels on couche pas. Donc il y a ceux avec qui on partage le vrai, des émotions soi-disant, et puis ceux avec lesquels juste on s'envoie en l'air pour tester, utilisant le corps de l'autre. Mais c'est le risque de se faire utiliser aussi, de se réduire soi-même à un état d'objet.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. On se retrouve demain à la même heure. En attendant, portez-vous bien.
C'était Sans Rendez-vous avec Cyclamed. Hors période de confinement, rapportez en pharmacie vos médicaments non utilisés. Qu'ils soient périmés ou non, Cyclamed les collecte et les valorise. Plus d'infos sur cyclamed.org.